J'ai l'impression que ça fait très longtemps que j'étais pas là, mais en fait, ça fait longtemps, hein. Ça fait 5 dimanches, je crois. Et ça commençait à manquer. Alors peut-être que moi, je vous manquais pas, mais vous, vous me manquiez. Voilà, Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole ce matin, déjà annoncée de façon large et explicite. Et Seigneur, nous prenons ces choses dans notre cœur, afin que tu les utilises, Seigneur, pour notre transformation. Dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais vous lire quelques versets avant de démarrer. Ésaïe 8, à partir du verset 14. Il s'agit d'une prophétie qui concerne Jésus. Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. Luc 2, verset 35. Je vais lire à partir du verset 33. Joseph et sa mère, donc, la mère de Jésus, donc Marie, étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Et maintenant, Luc 11. À partir du verset 29. Non, je vais prendre plutôt à partir du verset 27. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit, heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire, cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Et maintenant, j'aimerais que nous allions dans Jonas, dans ces versets que nous avons lus. Il y a un petit mot qui revient, vous l'avez peut-être noté, c'est celui de signe. Pas l'oiseau, mais le signe, la chose qu'on voit, la chose qu'on retient, la chose qui compte. Et pour les chrétiens, c'est parfois difficile de trouver qu'on compte, qu'on sert à quelque chose. C'est d'autant plus difficile lorsqu'on est un chrétien qui vit dans un endroit très reculé, je ne sais pas, en Afghanistan ou en Irak, et qu'on est peut-être tout seul ou juste avec quelques-uns disséminés. Et on se dit, mais à quoi je sers ? Mais bon, on n'a pas besoin d'aller aussi loin. On rencontre beaucoup de gens ici, dans les églises, qui se disent, mais à quoi je sers ? Est-ce que je suis juste là, tous les dimanches, assis, à recevoir des choses, participer un peu ? Et dans ce que nous avons lu, nous voyons qu'il est dit de Jésus qu'il sera un signe pour cette génération. Mais nous avons aussi lu que Jonas était un signe. Et je crois bien que chacun d'entre nous est un signe pour sa génération. Je crois que Jésus a été le premier signe de cette génération. Et nous sommes, il est dit dans la parole de Dieu, que nous ferons de plus grandes choses que lui, c'est-à-dire que nous ne serons pas plus grands que lui, mais nous pourrons développer plus de choses que lui, du fait que nous existons en tant que corps constitué, l'Église, depuis, nous avons passé plus de temps sur la terre que lui, en tant qu'homme. L'Église est un signe, et chaque individu, je crois, est un signe que Dieu envoie à cette génération. Il y avait en Afghanistan, non, c'était pas en Afghanistan, c'était un ancien pays de l'Union soviétique, instant quelque chose, en Asie centrale, et c'est un homme qui s'appelait Youssouf. Et cet homme, c'était un criminel, un voleur, c'était vraiment quelqu'un de... Il se décrivait comme étant le plus grand criminel de l'époque. Donc condamné plusieurs fois à de la prison. Et la dernière condamnation, c'était une condamnation à 6 années de prison. Et il se conduisait si mal, même en prison, qu'il passait la plupart de son temps dans la cellule d'isolement, dans le mitard, où on le laissait là, sans presque rien, et tout seul. Et une fois qu'un jour, il a été réintégré dans sa cellule, et là, il trouve une feuille de papier, sur laquelle était marquée la chose suivante. « Seigneur, pardonne mes péchés, et je te remercie pour le sang de Jésus versé pour moi. » C'est tout ce qu'il y avait. Il s'est saisi de ce papier et il a été touché. Il a été touché à tel point qu'il a appris cette prière et il s'est endormi. Dans la nuit, à 5 heures du matin, il a été réveillé par le Saint-Esprit et il s'est senti poussé à prier de nouveau cette prière plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Deux, trois jours après, il trouve une autre feuille avec une prière plus longue dessus. Il l'a prise également et cette fois-ci, il s'est donné à Jésus et il lui a demandé de l'utiliser pour prêcher et pour le servir dans son royaume. Et donc, il était toujours en prison et il répétait cette prière tous les jours, tous les jours, tous les jours, pendant 8 mois, jusqu'au jour où des ennemis à lui ont été incarcérés dans cette même prison et ont entrepris de se débarrasser, de vouloir se débarrasser de lui. Donc, il a été blessé. Amené à l'hôpital et il était mourant, il a été soigné, il est sorti de prison, ses ennemis étaient toujours après lui, il le recherchait, c'était vraiment un gangster. Il le recherchait pour le tuer. Donc il s'est échappé régulièrement, des fois il était blessé, donc à plusieurs reprises il a été blessé et il a été hospitalisé à de nombreuses reprises également. Il a rebasculé dans le trafic de drogue, guerre de gang et tout ça. Et un jour, il y a quelque chose en lui qui lui a dit « Maintenant, ça suffit. Assez. » Il a décidé de partir. Il avait été blessé à nouveau. Il était mourant presque. Mais là, une fois guéri, il est reparti. Il est allé dans le désert. Il s'est fait berger pendant plusieurs mois. Et là, il a entrepris d'aller rencontrer un pasteur et des chrétiens qu'il avait rencontrés à l'époque et de mettre toute sa vie en ordre et de servir le Seigneur. C'est une histoire banale, presque, à part que c'était un gangster. Mais ce qui n'est pas banal, ce sont les feuilles de papier sur lesquelles il y avait des prières. Et des fois, je me dis, on se voit nous-mêmes peut-être pas plus gros qu'une feuille de papier dans l'histoire du monde. On ne se voit pas plus important que ça. C'est-à-dire ridicule, sans aucune épaisseur, sans aucune capacité. Sauf que ce n'est pas tellement ce qui est marqué sur la feuille de papier qui compte. C'est ce que le Seigneur fait dans la personne qui tient la feuille de papier dans ses mains, qui fait qu'elle devient un signe. Et le problème, c'est que nous devons être à l'endroit où le Seigneur veut que nous soyons. Ça, c'est la chose qui est importante. Emmanuel disait, on a peut-être des problèmes parce qu'on n'a pas une oreille pour entendre ce que le Seigneur veut nous dire. Et on se crée des problèmes en n'écoutant pas. Eh bien, il y avait un homme dont Jésus a dit qu'il était un signe, Jonas. Et j'aimerais qu'on se penche un peu sur sa vie et qu'on réalise un peu ce qui s'est passé dans la vie de cet homme et comment il est devenu un signe. Parce que Jonas n'a pas été un signe dès le départ, ou alors plutôt un signe spécial. N'est-ce pas? On lit « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour aller à Tarsis. Il était un signe de désobéissance. « Lève-toi, Jonas, tu es mon prophète. Tu es celui que j'ai choisi pour parler. » Tu es celui qui est la spécificité d'Israël. Tu es celui qui représente la fierté de son peuple et la fierté de son Dieu. C'est toi que j'envoie vers les nations. C'est toi à qui je demande, à qui je donne la responsabilité incroyable de parler au nom de Dieu. Va à Ninive, la grande ville, et dis-leur. Jonas, il a entendu Ninive. Et dès qu'il a entendu Ninive, il avait déjà dit non. Ninive, est-ce que vous savez où ça se trouve aujourd'hui? En Irak? Et c'est quelle ville? Au nord, Mossoul. On trouve des... Il y a une artère principale de Mossoul qui s'appelle Nineveh Street en anglais, En arabe, je ne sais pas, mais en anglais, c'est ça. Et donc, dans la banlieue de Mossoul, on a des restes de Ninive. Jonas, va à Mossoul. Je ne sais pas, moi, si vous entendiez la voix de Dieu aujourd'hui, dit Jonas, Marcel, Robert, va à Mossoul aujourd'hui. Je crois que José, va à Mossoul. Et José, il a entendu Mossoul il a juste entendu va et il dit non, moi je suis bien en Flandre intérieure. Oui, mais on est beaucoup comme ça, n'est-ce pas? On est beaucoup à José, avec José, on a l'avantage qu'il dit les choses. Il y en a beaucoup qui disent pas, mais qui en pensent pas moins. N'est-ce pas? Alors, va à Ninive. Et là, Jonas dit non. Non. Non, non. Non, non, ça doit être une erreur. Ça doit être une erreur parce que moi, j'ai un appel pour Tarsis. Si, 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 si. Les preuves en est. Je suis allé au port. Et là, au port, il y avait un bateau qui était prêt à partir. Il se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo. Il y trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller. Le Seigneur m'a ouvert la porte. Je suis allé au port, il y avait un bateau qui était prêt à appareiller. Le Seigneur m'a ouvert la porte pour que j'aille à Tarsis, n'est-ce pas? On dit ça facilement. Le Seigneur m'a ouvert la porte. Alors ils montent sur le bateau et ils partent. Et là arrive une tempête. Et alors ils se disent, mais bien sûr, c'est normal, je suis dans le plan de Dieu. Lorsqu'on est dans le plan de Dieu, il y a toujours des tempêtes parce que Satan veut nous empêcher d'aller là où nous devons aller. Alors, confiant, il descend dans la cale du bateau et il va dormir. Alors je dis confiant, c'est l'impression que ça peut donner. Mais en réalité, Jonas était un prophète de Dieu. Et il entendait une voix à l'intérieur qui lui disait, « Jonas, tu es un problème pour moi. Jonas, tu me causes des problèmes. Je t'ai demandé d'aller à Ninive et tu pars à Tarsis. » Et Jonas entendait cela à l'intérieur de lui. Et parce qu'il ne voulait plus l'entendre, il est allé dormir. Il est allé se réfugier dans le sommeil. Aujourd'hui, il y a des semaines entières de relations d'aide pour des chrétiens qui n'entendent pas la voix de Dieu ou qui ne veulent pas l'entendre. Parce qu'ils veulent dormir. Ils ne veulent pas faire et aller là où Dieu les envoie. Ils veulent faire leur propre truc. Et ils vont se réfugier dans d'autres choses. Ils vont s'inscrire dans les associations. Ils vont travailler par-ci, ils vont travailler par-là. Oh, le Seigneur me donnera bien des opportunités pour que je fasse ceci et cela, que de temps en temps je puisse partager sur la Bible. Ils vont dormir, ils vont éteindre la voix de Dieu, ils vont trouver tous les moyens possibles et imaginables pour ne pas entendre cette voix qui leur dit « Tu es pour moi un problème, tu es en train de faire autre chose que ce que je t'ai demandé de faire. » Alors bien sûr, on a besoin d'être aidé. Alors, le problème, c'est que Jonas avait mis en difficulté tout un bateau. Toute une communauté, là, était en difficulté à cause de lui. Ces gens étaient des croyants. Ils ont fait une belle prière à Dieu, si on lit. On ne va pas lire dans les détails, je n'ai pas le temps. Mais ils ont fait une prière à Dieu et ils sont venus voir Jonas. Il dit, toi, tu as un problème avec ton Dieu. Et Jonas a dit, oui, c'est vrai, vous m'avez découvert. Vous m'avez découvert. Est-ce qu'on doit faire une enquête dans l'Église pour savoir qu'il y a un problème avec Dieu? Vous m'avez découvert. J'ai la solution pour vous. Jetez-moi par-dessus bord et vous allez voir, les choses vont s'arranger. Et figurez-vous, ils ont été très contents de l'avoir fait. Parce qu'effectivement, à peine ils l'avaient jeté par-dessus bord, la situation s'est calmée. Ah, c'était ce qu'il fallait faire. Et ils étaient contents. Jonas, lui, descend dans les profondeurs de la mer et se fait prendre en charge par un poisson. Là, il y a un grand moment de solitude, un grand moment de douleur, de tristesse. Il y a un moment, en réalité, où Dieu peut enfin atteindre son cœur. Enfin, Dieu arrive à se faire entendre de lui. Et Jonas abdique et le poisson le rejette sur la rive. Jonas, dans un premier temps, n'est-ce pas, avait préféré fuir, partir, quitter l'endroit, c'est-à-dire choisir finalement, c'est pas facile de quitter un pays, choisir un désagrément pour en éviter un plus grand. Parce que Jonas avait peur de Ninive. Il avait peur de ces gens dont Dieu lui-même avait dit « ils sont méchants, leur méchanceté est grande ». Et si vous regardez un peu de qui il s'agit, vous verrez que les Ninivites, c'était le comble de la méchanceté, le comble du vice, le comble de la cruauté. Et Israël ne voulait pas ce peuple à ses côtés ou comme exemple. Mais Jonas a été recraché par le poisson. Et on arrive au chapitre 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive. Ça, c'est fantastique. Enfin ! Merci, Jonas ! Jonas, tu n'es plus un problème pour moi. Tu as fait le travail que je te demandais d'accomplir. Brave serviteur. Et on apprend que le peuple, donc il s'agissait de faire 3 jours, n'est-ce pas, hein, de traverser la ville, et pendant 3 jours, hein, imaginez-vous à Mossoul aujourd'hui, 3 jours, repentez-vous, dans 40 jours la ville sera détruite. Je ne sais pas si on arrive à faire 1 heure comme ça dans la ville, sans être égorgé. En tout cas, Jonas l'a fait, Dieu l'a préservé. Et oh miracle, ce peuple qui devait être détruit, Dieu change d'avis parce qu'ils se sont repentis. Et le roi a ordonné même une repentance nationale. Et là, c'est carrément un élément perturbateur, on dirait, dans le récit, n'est-ce pas? Ça change complètement la donne. Ah non, je ne vais pas les détruire. Je ne vais pas les détruire. Et Jonas est heureux. Waouh! Tout ce peuple est sauvé. Il n'est pas heureux. Jonas n'est pas heureux. Ça, c'est incroyable quand même. Chapitre 4. Cela déplut fort à Jonas. N'est-ce pas ? On lit d'abord, fin du verset, chapitre 3, « Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et ne le fit pas. » Gloire à Dieu ! Jonas, gloire à Dieu ! Cela déplut fort à Jonas. Non seulement ça, mais il argumente. C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie. Tragédie. En fait, Jonas, son problème, c'est qu'il n'aimait pas les gens de Ninive. Il était malheureux que Dieu les ait sauvés. Et je ne voulais pas aller à Tarsis, dit-il, parce que je ne voulais pas que tu les sauves, parce que je savais que si j'y allais, à Ninive, pardon, eh bien, je savais que si j'y allais, tu les sauverais. Et ça, je ne le voulais pas. Alors, Jonas est malheureux. Il est malheureux parce que les méchants de Ninive ont été sauvés. Dieu a tout mis en œuvre pour que Jonas soit un signe. Rendez-vous compte. Dieu dit à Jonas, va à Ninive. Dieu part à Tarsis. Il organise une tempête. Il organise un poisson. Tout cela, tous ces éléments-là, juste pour un seul homme, pour qu'enfin il fasse le travail qui est d'aller simplement à Ninive et d'annoncer la destruction. Toute cette logistique mise en œuvre pour un seul homme, pour qu'il fasse le travail. Ça nous parle beaucoup de la grâce de Dieu. Je ne sais pas, moi, comment vous voyez votre salut et de quoi vous avez été sauvé. Mais est-ce que vous pouvez retracer tout le travail de Dieu dans votre vie, tout ce qu'il a dû mettre en œuvre, palier après palier, signe après signe, pour que de là vous étiez ? Il vous amène là où il voulait que vous soyez. Est-ce que vous arrivez à le faire ? Et si vous arrivez à le faire, alors vous savez de quoi vous avez été sauvé. Vous savez quel travail Dieu a accompli pour que vous soyez en sécurité. Parce que Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui se tiennent sur la brèche, d'hommes et de femmes qui communiquent l'Évangile. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui obéissent et qui font les choses qui doivent être faites dans le royaume de Dieu. Et pour cela, pour chacun d'entre nous, il va tout mettre en œuvre pour que nous soyons ce que nous devons être, des signes pour notre génération. Mais alors Jonas n'était pas content d'être un signe. Il n'était pas content que ces gens soient sauvés. Alors Dieu continue l'apprentissage d'une certaine manière, continue la leçon. Et on lit plus loin que Dieu fait croître un ricin parce qu'il faisait chaud, que Jonas était dépressif. Et que Jonas avait besoin d'être soulagé. Alors Dieu fait croître un ricin qui lui donne de l'ombre. Et on lit que Jonas était content parce qu'il était à l'ombre. Et la nuit, Dieu suscite un ver qui va piquer le ricin. Et le ricin se dessèche. Et le ricin meurt. Et le lendemain, l'ombre a disparu. Et Jonas est malheureux à nouveau, en colère, énervé. Il était binaire. Hein? Alors, Dieu lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, Jonas? Tu as tout d'un coup l'âme d'un jardinier, c'est ça? Tu te plains, tu pleures pour ton ricin qui a disparu. Alors que tu n'as rien fait pour qu'il vienne, pour qu'il apparaisse et qu'il grandisse. Qu'est-ce que tu fais? Tu pleures parce que tu as perdu un peu du bien-être de ta vie quotidienne? Parce que peut-être tu as perdu ton travail? Parce que peut-être tu n'as pas pu changer tes draps aussi souvent que tu voulais? Parce que tu dois faire un peu plus attention à la façon dont tu gères ton argent? Parce que la crise est venue et voilà, c'est plus difficile. Tu pleures à cause de ça? C'est ça ta préoccupation, Jonas? Alors, je vais te dire quelle est ma préoccupation, moi, Dieu, qui t'ai envoyé là-bas. Et on lit ça au chapitre 4 et au verset 11. Et moi, n'aurais-je pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche? Tu pleures à cause de tes problèmes matériels et logistiques du quotidien, ces choses que tu vois filer un peu entre tes mains. Mais finalement, qu'est-ce que tu as fait pour avoir cela? Pourquoi est-ce que toi, tu les aurais plutôt que ceux qui vivent au milieu du désert en Afghanistan? Tu pleures pour des choses que je t'ai données, moi, et qui disparaissent un peu. Mais lorsqu'il s'agit de l'âme, de ces gens qui sont dehors et qui ont besoin d'entendre l'Évangile, eh bien tu finis par être malheureux parce qu'ils sont sauvés. Ou tu finis par ne rien faire, juste parce que tu te préoccupes de ton porte-monnaie ou de tes biens matériels. Ou peut-être de l'Église, ou peut-être des choses de ci, de là. Est-ce que nous comprenons le cœur de Dieu? Cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus. Je ferai pousser un ricin, je le détruirai le jour d'après. Ça, ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est de faire les choses que je te demande de faire, d'être là où tu dois être et de te préoccuper des âmes qui sont en train de mourir. Et ce qui est rassurant, c'est que nous voyons que Dieu mettra tout en œuvre, je dirais presque à notre corps défendant, pour que nous fassions ce qu'il a décidé que nous devions faire. Alors, frères et sœurs, n'allons pas nous perdre au fond de la cale d'un bateau, à dormir, à essayer de trouver des diversions à la voix de Dieu qui nous appelle à faire ceci ou cela. Ne trouvons pas des excuses pour ne pas aller là où nous devons aller. Il y avait un jeune homme en Indonésie qui s'appelait Roy. Roy Panto, qui avait 15 ans. Et il était dans un camp chrétien, dans un endroit où les musulmans étaient particulièrement comment dire, actif et où les choses étaient un peu dangereuses. Et il y avait ce jour-là une étude biblique. Le sujet, c'était dans 2 Timothée 2, verset 3, sur « Souffre comme un bon soldat ». Et il y a là un groupe de musulmans qui est arrivé, surexcité. Et ils ont pris tout le monde et les ont fait se mettre au milieu de la prairie dans laquelle ils campaient. Et ils ont pris quelqu'un au hasard, et ce hasard a voulu que ce soit Roy. Et ils l'ont fait mettre au milieu. Et ils lui ont dit, quel est ton nom? Et on ne sait pas pourquoi, il a répondu, mon nom, c'est je suis un soldat de Jésus-Christ. Et ils lui ont coupé un bras immédiatement. Ils lui ont reposé la question immédiatement. Quel est ton nom? Je suis un soldat de Jésus-Christ. Et ils lui ont coupé l'autre bras. Et ensuite, ils lui ont posé la question. Qui est ton maître? Il a répondu, mon maître est Jésus. Et là, ils l'ont achevé sur le champ. Cet homme, cet enfant, aujourd'hui est, je ne vais pas dire une icône, mais est un représente pour la jeunesse en Indonésie, la jeunesse chrétienne en Indonésie, l'exemple à suivre. Il est dans le cœur et dans les voix et dans l'esprit de tous ceux qui étaient présents là, mais aussi de tous ceux qui ont entendu parler de cette histoire. Il est un signe, il a été un signe, et il est un signe pour sa génération. Le Seigneur veut que chacun d'entre nous, nous soyons un signe pour notre génération. Et il est prêt à tout mettre en œuvre pour que chacun d'entre nous, nous fassions et que nous soyons là où nous devons être pour le servir. Voilà. C'est notre Dieu, merci de veiller sur nous ainsi. Merci de veiller aussi sur l'avancée de ton royaume. Et Père, plutôt que d'être de ceux que tu dois chercher tout le temps pour faire le travail, nous voulons, Seigneur, nous précipiter devant ton trône et te dire, ô Dieu, nous voulons non pas être de ceux qui fuient, mais nous voulons avoir les oreilles ouvertes, le cœur ouvert et entendre ta voix qui nous parle. Et lorsque tu nous parles, Seigneur, nous voulons être en situation d'être de ceux qui obéissent, ceux qui sont capables d'obéir. Seigneur, nous voulons être déliés de toutes nos entraves, de tout ce qui nous empêche de dire oui à ton appel. Nous voulons être de ceux, Seigneur, qui aimons nos voisins plus que notre bien-être et qui travaillons, qui cherchons des solutions pour toucher nos voisins et les amener à l'Évangile plutôt que de chercher des solutions pour augmenter notre bien-être. Seigneur, que tu puisses parler dans nos cœurs encore aujourd'hui sur cet aspect des choses et nous convaincre. Dans le nom de Jésus. Amen.